décliner l'offre. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Hey, come on, là, 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 là. Écoute, je te remercie beaucoup, mais je vais décliner ton offre. On est porté à en rajouter. Et vous remarquerez que ce qu'on ajoute donne une prise à l'autre.
Ben oui.
Donc,
c'est du jus.
Tiens-toi. C'est pour ça que je vous disais quelques phrases que tu répètes, là, mais tu tiens. Puis habituellement, on les répète 3 à 4 fois, puis après ça, on lâche. Il faut dépasser. Tu comprends? L'autre n'aura pas de prise.
Ah, puis là, je veux dire, si la personne ne lâche pas prise, à un moment donné, posez-vous des questions sur votre entourage.
Ben, on va finir par lâcher prise. Mais non, là, c'est elle va dire folle, tout se met de lâcher.
Paul, avant qu'on se laisse, 3 questions, t'as dit, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que
j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai l'envie?
OK.
Tu vois, j'ai un texto intéressant d'un certain Nathan Meilleur qui dit « J'ai voulu vous appeler pour intervenir, mais je dois aller chercher mes gars au camp. Alors, je me choisis et je dis non. »
Bravo, bon, Nathan!
Mais là, Nathan, on aurait
est-ce
vraiment
c'est
aimé
le
ça
Nathan
que tu
nous appelles. Oui,
qui dit... c'est le oh, Nathan!
Écoute, Nathan Meilleur!
C'est notre tweet, il est cute. Mais tu sais que l'humour, elle est sous-utilisée comme moyen fort intéressant. L'humour, là, je veux dire, c'est comme un gros ballon que tu n'arrives pas à attraper. Fait que dans vos répliques que vous préparez, il peut y avoir aussi de l'humour. Tu comprends?
Mais là, des fois, le deuxième degré, c'est pas tout le monde qui le comprend. Ça peut être compliqué.
Mais ça peut être de l'humour au premier degré. Là.
Il faudrait, oui.
C'est
oui.
Pour non, que ça soit simple.
Rendre ça léger simple. Un peu, puis pas dramatique.
Mais tu sais, quelqu'un
là,
qui insiste, qui veut que tu ailles à l'épluchette de bladine, tu lui dis, écoute, mes intestins ont vraiment pas envie d'y aller. Là, je pense que t'aimerais pas ça. Non, mais tu sais, envoyer quelque chose qui est dans l'île. Là, c'est juste
l'effet
ça
de surprise.
L'effet de surprise. Non, mais c'est vrai. L'effet surprise, l'humour.
Ah non, c'est vrai. Et à un moment donné, Paul, va falloir se faire une chronique sur l'inverse, je pense. Les gens qui disent toujours non. Tu sais, à quel point tu gardes ça dans ta vie ou pas, à quel point c'est personnel ou pas, j'ai l'impression que ça pourrait aider des gens aussi. Paul Lévesque est spécialiste du comportement humain, la chronique portait sur les gens qui ont bien de la misère à dire non. Vous allez la retrouver sur le blvd.fm. Merci, Paul!
Ça m'a tellement fait plaisir, puis prenez donc soin de la personne la plus importante de votre vie.
Ah oui!
C'est vous-même.
Oh mon Dieu, j'ai raté le test.
Je me suis dépêchée.
Elle n'a rien compris.
Il y a quelqu'un à qui j'ai pensé quand tu as dit ça. C'était épouvantable. Finalement, je vais encore faire un peu de thérapie. Et d'ailleurs, je veux prendre le temps d'annoncer. Paul, moi, la semaine prochaine, je ne suis pas là, je suis en vacances.
Oui.
Peut-être que Max va vouloir que vous vous jasiez, mais nous, on se retrouve officiellement la semaine du 3 août dans les open mic. Paul qui va faire à partir du 3 août les lundis avec Max et moi dans l'open mic. On va avoir le temps de s'étendre un peu plus. On va avoir le temps de jaser. Prendre les lignes, si ça vous tente d'appeler au 780-101, ça va nous donner un peu plus d'espace. Fait qu'on se retrouve pour notre part le 3 août, Paul.
Oui, puis on va être là toutes les semaines, hein, c'est ça. Puis si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on parle, tant que c'est pas de mécanique, c'est le comportement humain, ben, je pense que ça pourrait être une bonne idée d'envoyer des suggestions.
Définitivement.
Ben, en tout cas, moi, je suis là pour vous autres.
Ça vous tente. On ne vous force pas. Là. Ça
on
vous tente
pas.
De dire oui, allez-y, mais sinon,
tu vois,
c'est correct.
Il y a qui... Non, mais il est bon.
Oui, oui, il apprend. 88-971-101 par texto. Vous êtes dans le retour de Boulevard. Le retour. Salutations à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous à Boulevard 101. Vous êtes dans le retour de Boulevard. Je m'appelle Audrey Pinchot, accompagnée d'Antonine Iacarini, Max Larouche jusqu'à 18h. Et pour la semaine, on est votre équipe du retour. Une programmation qui est 100% parlée cet été aussi. Évidemment, la musique garde sa place les soirs et les fins de semaine à Boulevard. C'est notre ADN de base, après tout. Donc, on a le Rock and Chill la fin de semaine de 7 à 10. On a le Boulevard du Rock de 10 à 15h et les Colosses du Rock de 15 à 17. D'ailleurs, les Colosses du Rock, si vous avez jamais écouté ce show-là, c'est probablement le plus récent de la programmation. Et c'est un show qui brasse. Pour les un peu plus puristes, j'ai envie de dire, show très apprécié avec l'ami Colosses, donc les samedis dimanches, 15 à 17h. Vous voulez nous rejoindre? 88-971-1021, c'est le numéro de texto. Il y a le téléphone, 88-780-1021. Le Messenger de Boulevard, c'est possible aussi. On est sur Instagram, Facebook, évidemment. On a TikTok, on est sur X, la chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez les meilleurs moments, les podcasts aussi. Une couple de niaiseries à travers tout ça, les grandes entrevues, ça se retrouve tout là. Et si vous avez des dossiers concernant la Ville de Québec, ben, on a notre journaliste terrain, Mathias Turcotte, que vous pouvez rejoindre au citoyen à commercial blvd.fm. Je regarde les routes en ce moment. ça se sent que c'est les vacances de la construction, que le fait qu'il est terminé. Présentement, voyez-vous, les seuls endroits où il y a des ralentissements, c'est Capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa. Et si vous êtes sur la 20, direction Ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata, pour le reste, ça va quand même bien. Il y a peut-être un ralentissement inhabituel, là. Si vous êtes sur la route du président Kennedy, ça devient quoi, ça? Je vais pas dire n'importe quoi. Ah oui, voilà. La route du président Kennedy, à un moment donné, ça fait un Y là, dans le coin de Saint-Henri. Là. Fait que si vous êtes sur la rue commerciale, dans ce bout-là, il y a un gros ralentissement. Je ne sais pas ce qui se passe, là. Mais 971-101, si vous avez des détails. J'ajoute à ma circulation incomplète que sur Charest, direction Est, hauteur Robert Bourassa, il y a un ralentissement qui s'ajoute. Sinon, ben fait 24 en ce moment, 27 ressentis à Québec. Le ciel qui est bleu, ça fait du bien, c'est le fun. Pour ce soir et cette nuit, un 30 % de possibilité d'averse. On est à 15 degrés. Demain, 25 avec des possibilités d'averse également. C'est des averses en soirée, assurément, avec un 16 degrés. Mercredi, 22, pluie intermittente. Ce sera nuageux en soirée avec 11 et un 23 pour jeudi. Ça devrait être ensoleillé ensuite de ça pour vendredi et samedi également, avant le retour de la pluie dimanche. Ce qui veut dire qu'on va probablement tantôt prendre le temps de se jaser de ce qu'il y a sur les plateformes de streaming. Je ne sais pas si vous avez regardé des trucs récemment. Moi, je suis comme orpheline, là. Je me cherche une série à laquelle m'accrocher, fait que ces temps-ci, je suis plus en mode documentaire, petit épisode ici et là. J'ai commencé des affaires, rien de coup de cœur. Fait que si vous avez des suggestions, on s'en jasera tantôt dans l'heure de 5. Pour l'instant, il faut faire un tour d'actualité. On est dû. Est-ce qu'il y a des nouvelles affaires, Max?
En fait, j'ai déjà une mise à jour par rapport à la nouvelle affaire dont je vous ai parlé tantôt. À l'effet que Marc Messier n'aurait pas droit à des funérailles nationales. Tantôt, on n'avait vraiment pas beaucoup de détails. On nous disait qu'il y avait eu analyse là, par le protocole du gouvernement du Québec, puis qu'on en arrivait à cette conclusion-là, qu'il n'y aura pas de funérailles nationales. Au moment où on se parlait tantôt, on ne savait pas si la famille de Marc Messier allait vouloir organiser un petit quelque chose, un volet public aux funérailles. Mais là, ce qu'on a vraiment comme information, c'est que tout se fera en intimité. Et on a aussi la précision, parce qu'on se demandait tantôt, là, la décision de ne pas avoir de funérailles nationales, ben, ça aurait été pris en commun accord avec les proches de Marc Messier.
Ah, ben c'est correct.
Ça, puis tu sais, sauf si on en parlait rapidement tantôt, c'est pas clair c'est quoi les critères pour avoir ou pas des funérailles nationales. Je regarde ce qui s'est fait dans les dernières années. Jean-Pierre Ferland en avait eu, ouais. Guy Lafleur aussi, Paul Guérin-Lajoie. Mais tu sais, c'est assez rare. Puis t'as les funérailles nationales, mais t'as les cérémonies d'hommage national. Ça, c'est autre chose aussi. Ça, Guy Rocher y avait eu droit il y a quelques mois de ça. Serge Fiori, même affaire. Carl Tremblay, défunt chanteur des Cowboys fringants aussi. Mais quand on parle vraiment de funérailles nationales, le dernier, c'est Jean-Pierre Ferland en juin 2024. Ça reste relativement rare.
Mais moi, du moment où la famille n'est pas particulièrement à l'aise, se questionne. On dirait que je lève les pattes, là. Tu sais, dans
ça,
le sens
c'est clair.
Que c'est privé, là.
Mais le problème, c'est quand la famille voudrait.
Des fois, il y a un malaise.
Puis que là, c'est le gouvernement qui veut pas.
C'est en... Je serais curieuse, par exemple, que ce soit public, les. C'est quoi la grille, là?
C'est pas public.
Mais je trouverais ça le fun que oui. Ce soit... Tu sais, voici les critères qui font en sorte que quelqu'un...
Mais je pense que c'est ça l'affaire. Je pense que personne le sait vraiment.
C'est une question
de goût personnel. Je pense qu'il n'y en a même pas de grille.
Tu sais, par exemple, quand Victor Lévy-Beaulieu est décédé, ça a fait un débat. Parce que Victor Lévy-Beaulieu, tout le monde a vu ses séries. Mais en même temps, c'est pas quelqu'un nécessairement populaire que tu vas aller faire un vox pop dans la rue puis que les gens vont connaître. Alors que, puis là, je veux pas souhaiter sa mort, mais mettons que Marie-Mé, demain matin, décédait.
Tout le monde sait c'est qui.
Tout le monde sait c'est qui. Par contre, est-ce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Québec et qui est profondément intégré dans la culture?
T'sais, c'est ça.
C'est très subjectif. C'est donc, est-ce que c'est le nombre d'albums, de livres que tu as vendus? Tu sais,
mais
il va toujours avoir un petit... Oui, Marc Messier, ça a été sûr.
À mon sens, c'est une certitude si la famille
est à l'aise. Si la famille avait voulu, je peux pas croire que ça aurait été non. Mais dans ce cas-ci, dès que la famille dit non, ben c'est fini, c'est classé. C'est vraiment quand on sent que la famille aurait voulu, mais que...
Tu vois, il y a un texto qui est entré, puis là, ben regardez, c'est personnel à chacun comme opinion, mais le critère pour les funérailles nationales, c'est pas mal. C'est-tu bon pour que les politiciens se ramassent du capital politique? C'est une vraie joke.
Ben,
puis c'est pour ça que les familles, souvent aussi, en veulent pas, j'ai l'impression.
Ben oui, puis la personne décédée se fait voler un petit peu le show, tu sais. En même temps, c'est un hommage. Qui...
Est-ce que tu dois ça au public comme famille?
Ben, c'est ça. Tu sais, mettons, Guy Lafleur, les gens, ne pas pouvoir aller lui rendre hommage, on dirait que ça n'aurait fait aucun sens. En même temps, si la famille avait dit c'est non,
c'est à respecter aussi.
Mais c'est fatigant, là, tu sais. Puis même, je pense au Cowboy fringant.
Pierre Tremblay, c'est à ça que je pensais.
Hey, à un moment donné, c'est devenu... c'était énorme, là.
Mais ça a été... Il n'y a pas eu de funérailles nationales pour Carl Tremblay.
Non, dans le cas de Carl Tremblay, il y avait eu la cérémonie au Centre Bell.
C'est ça.
Mais ce qui avait été particulier avec Carl Tremblay, c'est que les gens ont créé leur propre cérémonie un peu partout à travers le Québec, tu sais. Je me souviens, la soirée même ou le lendemain, c'est plein. Il y avait eu plusieurs rassemblements. J'étais allée faire un tour à l'Assomption, évidemment, d'où il vient. Ça avait été... J'ai comme l'impression que si la famille, mettons, refuse, les gens vont s'organiser pour eux-mêmes pouvoir rendre hommage, que je trouve pas détestable non plus.
Tu sais, dans le cas de Michel Côté, de mémoire, puis avec une petite recherche rapide, là, c'est vraiment le gouvernement aussi qui avait dit non. Je me souviens pas, la famille se rangeait de quel côté. Je sais même pas si on l'a su, là. Mais
ça avait fait débat.
Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. Parce que Michel Côté, c'en est un autre, ben à peu là, près de la trempe d'un Marc Messier. Là.
Absolument. En même temps, c'est où cette limite-là? Parce que ça, c'est une époque, je pense, où les vedettes québécoises de la télévision prenaient peut-être un peu plus de place. Si on se projette dans 50 ans, j'ai pas l'impression qu'on va avoir des figures de la télévision qui vont être aussi marquantes.
On le sait pas. Ouais.
On le sait pas, mais on en parle souvent avec la musique à quel point ça pleut. Il y a tellement d'affaires que c'est dur de te concentrer sur une personne qui va briller à travers le lot. T'sais, c'est particulier quand même. Mmh. Ensuite de ça, Max...
On est beaucoup dans les bilans du Festival d'été de Québec. Vous avez peut-être vu passer des chiffres dans certains médias par rapport à de la restauration. Ça a été une excellente semaine. Il y avait du monde chaque soir. La Ville de Québec, de son côté, qui dresse un bilan positif aussi des déplacements effectués pendant les 11 jours du FEC. On nous dit que le vélo, ben, ça a continué d'occuper une place importante. Achalandage un petit peu en bas de ce qu'on avait eu l'année passée. Faut dire, par contre, que l'année passée, il n'y avait pas d'autobus. Fait que là, c'est sûr qu'au niveau des vélos, ça a été un petit peu plus
normal,
tranquille, exactement. Ça a quand même été des chiffres importants. 74 500 passages à vélo. Du côté de la piste cyclable qui a été aménagée sur la Grande Allée, on parle d'une hausse de fréquentation pour les vélos de 9 % par rapport à l'année passée. La marche qui a aussi été un mode de déplacement bien populaire, au-dessus de 20 000 passages recensés sur le corridor vélocité du chemin Sainte-Foy. Pour ce qui est de la circulation automobile, on nous dit que ça a assez bien été, qu'on n'a pas eu nécessairement de ralentissement inhabituel par rapport à ce qu'on a à l'habitude. Pour ce qui est du RTC en tant que tel, son bilan, ben là aussi on dit que c'est un bilan qui est positif. Près de 277 500 déplacements effectués à bord des navettes et des parcours durant les 11 soirs.
Mais chapeau, il faut vraiment soulever quand c'est positif. On chiale souvent quand ça ne l'est pas, là. Mais ça a été un charme là, de se promener pour le Festival d'été de Québec. Il y a toujours des petits bugs qui sont tannants quelque part, mais la ville gère normalement très, très bien ça. Là.
Le service à vélo qui, de son côté, a enregistré près de 178 000 déplacements. La soirée la plus achalandée, autant pour les bus que pour les vélos, ça a été celle du mercredi 15 juillet. C'était le soir de All American Rejects, Shaggy et Keisha. En bus, plus de 20 600 déplacements. Le record quotidien de déplacements à vélo des 6 dernières saisons qui a aussi été battu ce jour-là, le 15 juillet, avec près de 20 000 déplacements. Le premier week-end des vacances de la construction qui laisse un lourd bilan de 8 morts sur les routes du Québec. Il y a un tragique accident notamment qui a fait 3 morts vendredi après-midi dans les Laurentides. Un couple et un jeune enfant qui ont perdu la vie. À Québec, il y a un motocycliste dans la soixantaine qui est décédé après avoir perdu le contrôle de sa moto hier soir. Autre grave accident qui n'a pas fait de mort, mais 2 blessés graves à l'île d'Orléans hier. Une moto qui a été percutée par une camionnette. Ce matin, il y a un motocycliste qui a aussi subi des blessures graves, cette fois dans le secteur de Saint-Henri-de-Lévis. D'ailleurs, on a l'identité de la personne qui est décédée du côté d'un incendie là, en fin de semaine, du côté de Saint-Augustin de Desmarres, Catalina Serrano Dufour, le bureau du coroner qui a confirmé le tout. Une femme de 40 ans qui a été transportée à l'hôpital. Elle avait été sortie des débris de l'incendie.
Elle était restée pris, quoi.
Inconsciente. Et le décès qui a été constaté du côté de l'hôpital. Et en effet, là, ça a pris des pompiers pour la sortir de là parce que vraisemblablement, elle n'a pas été en mesure de sortir elle-même. Et quand on l'a retrouvée, comme je le disais, ben, elle était inconsciente. Mohamed Bekali, qui avait fait la manchette en mars dernier en partageant une vidéo où il insultait violemment une policière, a été arrêté le 2 juillet dernier. Selon l'agence QMI, il a comparu sous 3 chefs d'accusation d'avoir publié un libelle diffamatoire à l'égard d'une policière et de 2 policiers du SPVM. Les accusations qui seraient liées à plusieurs publications de Bekali dans les semaines suivant la première controverse du mois de mars dernier. L'homme qui se trouvait au volant de son véhicule alors que son permis de conduire était sanctionné pour des contraventions impayées lorsqu'il a été arrêté. Bekali qui s'expose à une peine maximale de 2 ans. En attendant, il a été libéré sous condition. Il ne peut notamment plus publier de contenu par rapport à la police sur Internet ou les réseaux sociaux, a aussi dû supprimer ses publications problématiques sur les réseaux. QMI qui note toutefois que sur son compte Instagram aux dernières nouvelles, il y a encore une vidéo qui était en ligne où on l'entend s'en prendre verbalement à 2 policiers de la SQ. Tant qu'à être dans ces histoires-là de police et d'individus qui ont certains propos, l'agent de police de Mercier, dont on parlait la semaine passée parce qu'il disait très poliment à un homme noir que s'il n'était pas content d'être au Canada et de se faire arrêter souvent, puis souvent pour des motifs qui étaient très valables, si on l'avait su par la suite, là, ben, il pouvait retourner d'où il venait. Cet agent-là était suspendu, mais là, après enquête, la ville de Mercier qui annonce qu'il réintégrait ses fonctions. Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé la levée complète de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. La mesure qui était en vigueur depuis le 13 juillet, une décision qui a été prise là, en collaboration avec la SOPFEU. En ce moment, au Québec, 10 incendies de forêt sont en activité en zone de protection intensive. 136 feux sont actifs en zone nordique. D'ailleurs, il y a des incendies dans le nord de la province, en Ontario et dans les territoires du nord-ouest qui risquent d'amener pas mal de fumée dans notre coin dès jeudi. Donald Trump, lui, parce que depuis une couple de jours, ben, c'est sa nouvelle ligne, là, il dit avoir mentionné à Mark Carney en le croisant là, à la Coupe du Monde d'arrêter de polluer l'air des États-Unis avec nos feux de forêt au Canada.
Ça me fait tellement rire, ça, là, honnêtement. Je sais pas comment Mark Carney a réagi sur le moment à un commentaire comme ça, mais j'aurais pouffé de rire.
Mais vous savez pourquoi Donald Trump dit ça?
Mais pourquoi? C'est juste que voir si t'as le contrôle là-dessus.
Il sait bien. Mais lui, là, sa trame narrative qu'il veut intégrer dans la tête à tout le monde, c'est que le Canada n'est pas capable de se gérer sans l'aide des États-Unis. Donc, il parle au public américain. Il a dit qu'on n'était pas capable de contrôler nos frontières.
Mais
ils
ont aidé nous autres quand ils ont eu de la misère avec les feux.
On les aide chaque année quand ils ont de la misère avec leurs feux.
Ouais, mais lui, il va vous dire que les États-Unis font beaucoup plus pour le Canada que le contraire, qu'on les protège, qu'ils nous protègent militairement. Puis, je le sais que ça va avoir l'air dramatique, là. Mais tu sais, vous savez, il veut mettre la main sur le Groenland, par exemple. Tout a l'air d'un prétexte pour remettre en question notre souveraineté. Vous voyez, les Canadiens ne sont pas capables de gérer leur territoire. C'est ça l'objectif de Donald Trump quand il dit des choses comme ça.
Rentrer ça dans la tête aux Américains.
Ouais. Et de justifier certaines choses.
Puis là,
des fois, je me demande s'il est crétin ou s'il est foutument intelligent. Moi, je sais jamais où me placer.
Je pense qu'il est un peu des deux.
Ouais, il y a des formes d'intelligence comme ça qui...
Puis, je pourrais même y aller d'une prédiction.
Parce que
là,
ce gars-là sait manipuler un discours de façon...
Check le bain annoncé dans les prochains jours qui nous envoie de l'aide majeure pour éteindre nos feux de forêt.
Sans notre consentement, genre.
Genre. Mais annoncer ça en grande pompe, comme regardez les États-Unis, c'est beau.
On aide encore.
On vous imposera pas de tarifs, puis en plus, on va aller vous aider. Check le bain des prochains jours.
Mais les pompiers ou ils envoient l'armée, à ton avis?
Hein?
Ils vont envoyer des pompiers ou l'armée?
Ça va être l'armée.
OK, à suivre. Je serais même pas surprise. Quel personnage. Les amis, je tomberais pas en bas de ma chaise.
Ça me fascine. Ben raide. Je le dis tout le temps, les documentaires vont être très bons.
Tant qu'à être dans le dossier Donald Trump, il a répondu dans les dernières heures au maire de New York, Zoran Mamdani, qui, dans les derniers jours, a mentionné peut-être envisager la possibilité d'arrêter le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Et sur Truth Social, Trump a écrit « Netanyahu ne sera pas arrêté sous aucune forme ni de quelque manière que ce soit tant qu'il se retrouvera aux États-Unis d'Amérique. Il lutte contre la République islamique d'Iran qui a récemment tué 52 000 manifestants innocents et qui qui, au cours des 47 dernières années, a tué des soldats américains ainsi que d'autres personnes. Et il dit « Les seules personnes qui devraient être arrêtées sont celles qui ont entraîné l'Iran dans cette spirale sans précédent de mort et de destruction. Une situation qui aurait dû être traitée il y a des années par les présidents précédents. » Et autre chose qu'il a shooté en lien avec le conflit en Iran, c'est que chaque fois que l'Iran tuerait un soldat américain, ben, l'Iran allait payer le prix fort pour cet acte-là. Et que c'est une directive qui a été transmise notamment au secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Le gouvernement du Québec a annoncé ce matin la conclusion d'une entente de principe avec Ottawa pour optimiser les évaluations environnementales sur l'ensemble du territoire québécois par l'application du principe « un projet, une évaluation, une décision ». En gros, sans entrer dans tous les détails, c'est juste pour rendre les choses un petit peu plus simples. D'habitude, par le passé, il fallait que tu aies ton évaluation environnementale au Québec plus l'évaluation environnementale à Ottawa. Ben là, on aurait une seule évaluation gouvernementale pour tout le monde. Au sport, le Canadien qui s'était officiellement entendu sur les termes de contrat d'une saison à deux volets avec les attaquants Jared Davidson et Hunter McCown. Davidson, qui a 24 ans maintenant, a disputé 10 matchs dans la LNH avec les Canadiens la saison passée, récoltant une mention d'aide. Il a surtout passé la majorité de la saison avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Hunter McCown, lui, qui portait les couleurs des Monsters de Cleveland dans la Ligue américaine l'année passée. Un centre droitier âgé de 23 ans qui a marqué 9 buts, 16 mentions d'aide en 63 matchs, a été acquis plus tôt cet été des Blue Jackets en retour de l'attaquant Luke Tuck. Le CH qui a aussi confirmé une nouvelle qui était dans l'air depuis un petit bout, là, mais l'embauche de Derek Lalonde à titre d'entraîneur associé. Et vous rappelez que l'Espagne est championne de la Coupe du monde de la FIFA avec un gain de 1-0 en finale face à l'Argentine hier. Les Argentins qui ont été largement dominés, là, n'étant pas en mesure de cadrer un seul tir.
Henri Quatrenard, auteur du boulevard Wilfrid Hamel, la voie de droite qui est bloquée en ce moment. Il y a une panne. Sachez que le... Mon Dieu! MTMD.
Oui.
Ministère des Transports. Je m'en viens. Et déjà sur place, donc on attend le remorquage. Si vous êtes sur la capitale, direction est, à la hauteur de Robert Bourassa, c'est au ralenti ouest dans le coin de Laurentienne. Sur le boulevard Laurier, il y a quelques ralentissements dus aux travaux habituels. Là, et la 20 direction ouest, ça commence à s'étendre entre la route du président Kennedy et Taniata. Évidemment, si vous voyez autre chose, 971-1021. Il est 16h26. On va prendre le temps de faire un tour avec Antonine de tout ce qui est bilan des candidatures, de projections aussi pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches. On est rendu où?
Bon, d'abord, je veux tout de suite parler des projections parce que c'est assez fascinant comment, si les élections avaient lieu demain matin, on aurait un portrait dans la région qui est complètement différent de 2022. Bon, c'est sûr que quand la CAQ s'écroule alors qu'ils étaient à 90 députés en 2022 et que ben, la CAQ a déjà été très, très, très populaire dans la région de Québec, ben, c'est sûr qu'on s'attend à un résultat différent, à moins que Christine Fréchette le réussisse à vraiment remonter la pente. Donc, dans la région, qu'est-ce qu'on a en ce moment, là? Deux députés de Québec solidaire dans les quartiers centraux, zéro libéraux, un péquiste, Pascal Paradis dans Jean Talon, et 11 caquistes. Okay?
Ça, c'est le portrait selon la session qui vient de se terminer.
Ouais. Donc, la présente législature.
Parce qu'il y a eu quelques petits changements déjà avec les partiels.
Oui, parce qu'évidemment, Jean Talon est passé de la CAQ au Parti québécois en 2023. Maintenant, si on regarde la projection pour la prochaine campagne avec les sondages actuels, évidemment, là, tout peut changer selon les débats, l'actualité, les gaffes des uns et des autres, les annonces, les programmes, les candidatures. On est à 6 députés projetés pour les conservateurs. Donc déjà, on s'attend dans la région de Québec à ce que ce soit un terreau fertile pour l'arrivée d'une députation conservatrice. C'est quand même pas banal. Quand je dis région de Québec, j'inclus jusqu'à Portneuf, Charlevoix, sur la rive sud de Québec également. Il y a 5 députés péquistes qui sont projetés. Donc c'est quand même un retour en force du PQ dans la région, là. Juste vous dire, pendant longtemps, il y avait une députée dans la région, deux si tu comptes Charlevoix avec Mme Marois pendant quelques années, c'était Agnès Maltais. Ouais. Et quand Pascal Paradis a réussi à aller chercher une circonscription là, en 2023, ça faisait plusieurs années qu'il y en avait zéro. Donc, c'est vraiment un retour en force du PQ dans la région. Selon les projections actuelles, QS pourrait garder ses circonscriptions, mais elles sont en danger. Donc, QS, on sait que les comtés à Montréal, ça devrait aller, là. Et puis, même ça, Verdun et Saint-Henri-Saint-Anne, ça
Québec,
pourrait bouger.
Moins.
Québec, c'est un petit peu plus compliqué, puis on va aller faire un tour dans ces comtés-là dans un instant. Et la CAQ pourrait sauver la mise là, avec un député là, dans la région selon les projections. Les derniers sondages fin juin, là, on était à 28 % pour le PQ, 25 % pour le Parti conservateur, 21 % pour la CAQ. Donc, la course à trois dont on parle sur la scène nationale, ben elle est différente à Québec. C'est pas les libéraux qui sont dans la course à trois, c'est les conservateurs comme tels. Puis le PLQ qui n'arrive pas encore à vraiment faire des percées là, à Québec.
Alors que quand Charles Millard est arrivé, puis lui était pro-troisième lien... Le parti espérait être capable de rentrer à Québec. Finalement, c'est pas ça pantoute qui se passe.
Ben, à moins d'une remontée, parce que quand le Parti libéral score fort, il y a certaines circonscriptions dans lesquelles ils sont capables d'aller chercher des députés. On a eu des députés libéraux dans Jean Lesage,
dans Jean Talon, c'est très serré, même que dans les dernières semaines, la projection était libérale. Là, Pascal Paradis et le PQ sont repassés en avant, mais ça reste très serré.
Mais parlons-en de Jean Talon, mon comté préféré. Mon comté, en fait.
Bon.
Les projections... Là, les candidats sont presque tous annoncés. Il y a Québec solidaire que je n'ai pas vu. Je précise d'ailleurs que Québec solidaire n'a pas de page de candidat en ce moment. Puis je comprends qu'ils sont syndiqués et qu'ils prennent des vacances l'été. Mais c'est parce que là, c'est un peu compliqué de retracer toutes leurs candidatures. Mais les autres partis ont des pages, là, candidats, puis ils sont assez à jour dans les faits. Donc, dans Jean Talon, Pascal Paradis va essayer de sauver son siège parce que effectivement, Julie White, candidate libérale, est pas mal dans le rétroviseur. Là, on parle du PQ à 35 % puis du Parti libéral à 33 %. C'est le Parti conservateur qui est troisième, une projection autour de 12 %. Donc, la CAQ n'est pas vraiment dans la course alors que la CAQ avait eu là, cette circonscription-là à la suite de l'élection partielle en 2019.
Là, c'est vraiment une course à deux.
Une course à deux, puis la CAQ présente leur président de l'aile jeunesse. Donc ça, c'est toujours un signe que c'est pas une vedette là, qu'ils ont présenté là, en tout respect pour William Denis, là, qui est probablement très motivé, et surtout...
Très
énergique, ancré dans sa communauté. Et Christine Fréchette avait promis de présenter un certain pourcentage de jeunes. Elle n'avait pas promis dans quelle circonscription ce serait là, comme tel. Moi, une autre circonscription que je veux vraiment surveiller, c'est Taschereau. Taschereau, c'est quartier Saint-Roch, Vieux-Québec, une partie du quartier Montcalm. En fait, le quartier Montcalm.
Pas là que Farnell se présente.
Exactement.
C'est l'ancienne circonscription de Catherine Dorion aussi.
Absolument. C'est Étienne Grandmont, député aussi solidaire, qui a pris la relève en 2022. Les projections MEDQS à 32 % le PQ à 30 % Farnell est un petit peu loin derrière avec un 15 % et le PCQ et la CAQ sont à égalité pour l'instant à 11 %. Donc, on parle plus d'une course entre QS et le PQ, mais le PQ n'a pas encore annoncé son candidat. Donc, c'est une bonne circonscription à Québec. Est-ce qu'on va avoir une candidature vedette dans Taschereau? Ça va vraiment être à surveiller. Une circonscription dans laquelle la CAQ aurait des chances de sauver les meubles, c'est Louis Hébert. Donc là, on se transporte plus du côté de Sainte-Foy.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, tu sais, sauver les meubles, mettons? Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'une circonscription va avoir plus tendance à voter vers un parti?
Bien, en fait, c'est souvent des éléments très démographiques. Donc, les gens qui votent pour la CAQ, là, les personnels là, qui votent pour la CAQ, on parle petite famille, ils ont comme... même deux personas là, qui ont fait là, la CAQ, là, c'est Steve et Martin, genre une affaire de même. Donc, quand ils sont dans une circonscription très francophone avec des gens qui répondent à certains critères, ils ont plus de chances de l'emporter. Weber, ben, c'était la circonscription de Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, c'est sûr que ça a été quelqu'un d'extrêmement populaire qui a été lié à la montée de la CAQ après l'élection de 2018 qui les a menés au pouvoir. Mais la chute a été quand même assez brutale. Bon. L'histoire va retenir certaines choses de Mme Guilbeault, mais il y a d'autres choses qui vont être oubliées, évidemment. Mais c'est sûr qu'avec toute l'histoire de sa clique, le troisième lien, la CAQ dans Louis Hébert, on pourrait penser que peut-être que ça se passerait pas nécessairement bien. Mais la CAQ a quand même des chances de l'emporter, mais on n'a pas encore la candidature qui a été annoncée. Moi, j'entends que ça va être une candidature, pas une vedette, pas nécessairement des gens que les... Tu sais, qu'on ferait un vox pop dans la rue puis les gens connaîtraient, mais quelqu'un d'assez avec un bon CV et qui est très proche de la CAQ depuis longtemps. Donc ça, c'est à suivre.
Le Parti libéral, t'es arrivé avec une grosse candidature dans Louis Hébert.
Maître Véret,
qui finalement s'était retiré quelques semaines plus tard. C'était quasiment quelques jours plus tard.
Ce qui fait en sorte que la candidate péquiste, Chloé Fauchon, est la seule confirmée pour l'instant. Alors que c'est quand même une course assez serrée.
Ça donne-tu de l'avance dans ce temps-là? Oui, tu sais, quand ton candidat est annoncé, son nom se promène plus.
Oui, tu commences déjà à faire des activités. Aussi. Oui. Exactement. Donc oui, ça donne un certain avantage, mais c'est sûr que si un autre parti arrive avec une grosse vedette, ça peut changer absolument la donne. Mais on surveille là, ce qui sera l'alternative pour le Parti libéral. Ça a été libéral très longtemps, Louis Weber. C'était la circonscription de Samamane pendant plusieurs années. Donc ça, ça va être une course intéressante à suivre.
Puis le fait que, là, ça a l'air d'une question super niaiseuse, là, mais mettons, tu dis si une vedette qui est annoncée, automatiquement, les citoyens ont tendance à plus voter
ça
pour
dépend.
Quelqu'un, pour un nom qui est connu au-delà, mettons...
Les
parti.
Il y a une certaine partie de l'électorat qui va être flattée, entre guillemets, d'avoir des candidatures dites ministrables, des gens qui sont effectivement connus du grand public. Mais tu peux avoir une vedette qui est super polarisante, puis ça ne marche pas du tout.
Parce qu'il y aurait plus de pouvoir, mettons.
Oui. Les gens aiment avoir des ministres dans leur circonscription et dans leur région.
Je pense que tu veux voter pour ce que tu connais aussi. Je pense que ton premier réflexe, souvent, ça va être ça. T'as plus de chances. Puis ça dépend en même temps. Si t'es péquiste à l'os... puis que la vedette, c'est une libérale, ça se peut que tu votes quand même PQ. Mais j'ai l'impression que si t'es quelqu'un, tu sais, qui est un peu...
Change d'une élection
ouais, c'est
à
ça, que si t'as un gros nom qui se présente, que tu connais, ben tu peux être tenté de voter pour ce que tu connais.
Un exemple frappant, c'est l'élection partielle dans Chauveau, il y a quelques années, quand Gérard Deltel a quitté pour Ottawa. La CAQ a présenté Jocelyne Cazin, et c'était une circonscription caquiste. Et c'est une vedette, Jocelyne Cazin, tout le monde la connaissait, tout le monde l'écoutait à TVA à l'époque, etc. Et elle a fait une très mauvaise campagne. Ça s'est très, très mal passé. Puis en fait, le Parti libéral aussi présentait une vedette, une autre personnalité de la télévision, Véronique Tremblay. Et c'est finalement le Parti libéral qui est allé ravir cette circonscription-là. Donc, ça fait pas foi de tout, mais dans des circonscriptions où on a des cours serrés, ça peut vraiment faire la différence. Autre circonscription qu'on surveille, c'est celle de Bellechasse, parce que c'est là qu'Éric Duhaime se présente. Normalement, ça devrait être la bonne pour Éric Duhaime, là, qui a essayé de se faire élire en 2022 et aussi dans le cadre de l'élection partielle dans Arthabasca. Honnêtement, là, je vois les marges.
C'est pas stressant.
C'est pas trop stressant pour M. Duhaime. Là. La CAQ est deuxième, mais assez loin derrière, là, près de 20 % de différence comme telle. Chute de la Chaudière sur la rive sud de Québec. Martine Biron, qui est sur le site web de la CAQ, qui est ministre de l'enseignement supérieur en ce moment. Le PQ...
Elle ne voulait pas quitter, elle?
Ben on ne le sait pas. En fait, les rumeurs disent que oui, mais sur le site web, puis pour l'instant, on ne nous annonce pas ça. Donc, on va voir si ça se maintient. Le PQ est deuxième dans les projections, à 26 % derrière le PCQ, qui est à 30 % puis la CAQ est à 24 % Donc, c'est quand même pas mal une course à trois aussi. Le Parti conservateur qui présente l'ancien animateur de radio, Dominique Dumas. Donc, ça aussi, ça va être une course super intéressante à suivre. Et puis, l'autre élément, c'est quels enjeux vont retenir l'attention pendant la campagne électorale. On va faire une quatrième élection sur le troisième lien. Vous rendez-vous compte?
C'est capoté pareil, hein?
C'est fou, là.
Je pense qu'on est écœurés.
Puis je voyais M. Duhaime présenter une candidature aujourd'hui dans Lévis. Et c'était la première phrase dans les articles. C'est « Moi, je m'en vais en politique. On a besoin d'un troisième lien. Il y a de la congestion. » Puis je me disais « Ah, yeah, on a cette impression de vraiment faire du surplace dans ces dossiers-là. » Le tramway, d'après moi, moins un enjeu électoral, parce que le Parti conservateur en avait fait quand même un enjeu, notamment avec son candidat dans Jean Talon là, pendant l'élection partielle en 2023, puis pendant l'élection générale. Là, j'ai hâte de voir si les candidats du Parti conservateur vont vraiment remettre la gomme sur le tramway. Peut-être, parce que tu peux capitaliser sur la frustration des gens, surtout quand tu veux avoir des députés d'opposition. Tu n'as pas grand-chose à perdre en surfant un peu sur la colère de certains citoyens par rapport au dossier du tramway. Donc, on a pas mal de courses serrées dans la région. Puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, ben, il y a, d'après moi, pas mal de candidatures encore assez intéressantes qui vont être annoncées parce qu'il y a des bons comtés pour certains partis pour lesquels les candidats n'ont pas été annoncés.
Pour Jean Lesage, là, où en ce moment, c'est vraiment une course à deux QSPQ, c'est Sol Zanetti qu'au porte-parole qui se présente. C'est-tu encore une règle non écrite? Ça l'a-tu même déjà été de ne pas présenter de gros candidats contre le chef d'un parti?
Ah, c'est vraiment une bonne question. Je te dirais que cette tradition-là, elle existait quand, par exemple, un nouveau chef arrivait, puis que là, il se présentait pour faire son entrée à l'Assemblée nationale. Généralement, on ne présentait pas soit qu'on mettait un candidat poteau ou on présentait carrément personne par respect. Cette règle-là existe moins depuis qu'il y a 5 partis représentés à l'Assemblée nationale, parce que là, à un moment donné, ça finit plus. Là. Il y a tout le temps des chefs qui se font aller. QS aussi, il faut dire, a 2 chefs. Fait que là, ça fait 2 comtés qu'il faut laisser passer. Et l'animosité entre QS et le PQ dans les dernières années fait en sorte que je pense qu'il n'y a plus personne qui se fait de cadeaux à ce titre-là. Donc, moi, je pense que le PQ va présenter un gros nom dans Jean Lesage et va donner la gomme pour essayer de dégommer justement Solzanetti.
Il y a quelqu'un qui nous texte. La CAQ présente la fille de la Chambre de commerce dans Charlebourg, oui. Si Martine ne se présente pas.
Oui, mais je pense pas que Marie-Josée Morancy va faire le transfert à Chute, dans Chute de la Chaudière, si jamais. Elle a même eu un petit peu de difficulté à convaincre qu'elle était pas une candidate parachutée dans Charlebourg. Donc, je pense qu'elle va se maintenir dans Charlebourg, quitte à trouver quelqu'un d'autre pour Chute de la Chaudière. D'ailleurs, Charlebourg, c'est une autre course quand même intéressante. Le PQ est projeté à 30, PCQ à 23 et la CAQ à 23. C'est une autre course à 3 et tout le monde est annoncé. Là. Tous les candidats sont annoncés. Fun fact, il y a 2 personnes qui s'appellent Coulombe, qui ont le même nom de famille. Gabriel Coulombe du PQ et Héloïse Coulombe du Parti conservateur.
Ça me fascine à toutes les fois qu'on fait le tour de voir, puis parce que tu as le beau tableau, là, puis tu vois les chiffres de la CAQ en 2022, à quel point, tu sais, c'est...
Tu coupes en deux le chiffre là, un peu partout.
Là, mettons dans Charlebourg, c'était 45% Jonathan Julien en 2022, puis là, t'es rendu à 23. T'avais plein de chiffres entre 40 et 50, c'est pas plus.
Qui ont droppé.
De pourcentage, tu te dis, la CAQ avait vraiment passé à la gratte. Là.
À l'époque, ben oui, t'sais, 10, 11, 12 députés dans la région assez facilement. Puis maintenant, on se demande s'il va rester un député caquiste là, dans la région. C'est quand même incroyable.
J'ai hâte de voir comment Christine Fréchette va s'en sortir au bout du compte, mettons, avec tout ça. 88-971-101. Merci, Anto, en passant. Tu vois, je me suis toujours posé la question à quel moment, mettons, avant une élection, tu commences à t'intéresser de façon un peu plus précise, mettons, à ça?
Oui, parce que ça continue de bouger. Puis des fois, on va sortir un sondage, puis les gens vont nous dire « Ouais, mais c'est dans longtemps, ça veut rien dire, c'est loin de l'élection. » Là, on commence à être proche. Là.
Ça vaut la peine de surveiller. Quoi que ce soit, 971-102-1 texto, vous êtes à Boulevard 102-1 dans le retour. Dans les prochaines minutes, on se pose une question bien simple, en fait. Je pense que ça va être rempli d'anecdotes, puis ça va être le temps de jaser au 971-102-1. Avez-vous déjà envoyé un message à la mauvaise personne? Il y a un collègue qui nous est arrivé la semaine passée avec une histoire. Je veux les vôtres. Je vais vous lire ce qu'il y en est de cette histoire-là. C'est un peu sexuel. Je sais qu'Antonine a déjà eu une histoire aussi de message vocal au téléphone. J'ai toujours trouvé ça cocasse. Moi, c'est une de mes peurs d'envoyer un message à la mauvaise personne qui est vraiment pas destinée, mettons. Là. Fait qu'à 971-102, on vous lit au retour de la pause. Le retour. On rit déjà tout seul. Je sais pas si c'est la fatigue, là, mais...
Non, c'est que c'est fucking drôle.
Honnêtement, il y a des situations dans la vie que je trouve particulièrement cocasses. On a un collègue la semaine passée qui vient nous voir parce que il reçoit un texto un peu louche. Il embarque un peu dans la conversation, mais tu sais, rapidement, il dit au gars, écoute, t'as vraiment pas la bonne personne au bout du fil, là. On va vous lire cette conversation-là, mais ça nous a mené à se dire, avez-vous déjà envoyé un message à la mauvaise personne? Puis là, je parle de message, mettons, que tu voulais... Pas un salut, ça va. Là. C'est un message que tu n'avais pas nécessairement envie qui se rende. Ça peut être une photo, ça peut être un message coquin, ça peut être une affaire de patronat. Mais il y a tellement des situations comme ça qui arrivent. Moi, c'est quelque chose qui me fait tellement peur. Déjà, il y a quelqu'un qui dit « J'ai déjà répondu à un courriel de l'école des enfants alors que je pensais transférer à mon chum et j'ai signé en disant « Bonne journée, je t'aime, mon amour ». Quand j'ai réalisé mon erreur, j'ai réécrit à la secrétaire de l'école en disant que je m'étais trompée. Elle m'a répondu que j'avais fait sa journée. Je voulais la situation. Mais on va faire du théâtre, tiens, Max. Tu veux interpréter quel rôle? Celui qui écrit ou celui qui reçoit?
Celui qui écrit.
Celui qui écrit? Je te laisse aller.
Salut ma belle, toujours partante.
Point d'interrogation.
Je vais le nommer, il y en a plein de ce prénom-là.
Ben oui.
C'est Jeff, le grand mec de Tinder pour ton cuni. Bonhomme, diable, émoji. Et là, il y a quelques minutes qui passent. Voulais-tu les photos directes sort de la douche live? Émoji de yeux, émoji de... Émoji qui se cache les yeux.
Ish! Tu parles à un gars. Émoji qui rit.
What the fuck, emoji bouche ouverte un peu inquiète, emoji tape d'en face, emoji tape d'en face. Sorry.
Et mon collègue de répondre, ah ça c'est drôle en calice. Tu fais ma journée, have fun.
Emoji tape d'en face, thanks.
C'est Jeff, le grand mec de Tinder pour ton cuni. Voulais-tu les photos directes? Je sors de la douche live.
Mais c'est... Ça, tout est clair. Puis clairement, avant ça, on comprend qu'il y avait une discussion sur Tinder au préalable entre Jeff et quelqu'un qui semblait... qui devait être super consentant. Puis sur Tinder, tu peux pas envoyer de photos, tu sais. Fait
non.
qu'on comprend que... Là, c'était un échange qui se transférait de Tinder au numéro de téléphone pour qu'il y ait envoi de photos. T'sais.
Est-ce que toi, qui es un habitué de la plateforme, t'as déjà eu un mauvais numéro de téléphone?
Ça m'est jamais arrivé, malheureusement.
Je pense que j'ai donné un faux numéro de téléphone une fois dans ma vie. Parce que je savais comme plus quoi dire. À un moment donné, j'étais pris.
J'étais pas capable de dire non.
J'arrivais comme pas à... Puis là, j'ai donné un faux numéro.
Je mais en, il y a quelqu'un
vrai...
qui a reçu...
En vrai?
Oui, en vrai.
OK, c'est ça.
En vrai, dans
t'étais
un bar.
Dans un bar. Okay.
Ouais, ouais. Fait que j'avais comme rentré mon contact avec un faux numéro, puis après ça, tchon-tchon, okay.
Ouais,
j'allais
ouais, c'est ça. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais est-ce que je parle jamais à personne dans les bars non plus? Là?
As-tu déjà envoyé quelque chose par erreur à quelqu'un?
Je pense que c'est arrivé une fois. Comme j'étais jeune quand même. Ça fait plusieurs années à une de mes amies qui avait juste trouvé ça drôle. Là.
Moi, un « je t'aime », ça m'est déjà arrivé.
Ah, moi, c'était pas un... Ben, ça peut vouloir
mais
dire
ça,
je t'aime. Là.
C'est pas la fin du monde. Ça, tu te rétractes assez rapidement, puis je veux dire, ça peut devenir cocasse à la limite. Là. J'ai déjà, par erreur, pas une personne en particulier, mais mis des trucs dans mes stories réseaux sociaux par erreur.
Ça m'avait tellement fait rire. Là. Quand j'avais vu ça dans ta story, je t'avais comme juste écrit, il me semble... Écoute, je pense pas que tes informations bancaires sont supposées se retrouver en story comme
un
ça.
Un beau
là.
Print screen de mes informations de transaction.
Je comprends même pas comment t'as fait pour mettre ça
pas
là.
Non plus.
En fait, c'est que des fois, quand tu veux sélectionner une photo pour l'envoyer, que ce soit par texto ou sur une plateforme de médias sociaux, des fois, tu sélectionnes deux photos. Sans le vouloir.
Ouais.
Moi, ça, j'ai fait ça plusieurs fois. Là. Envoyer une photo à quelqu'un, mais la photo d'avant ou la photo d'après aussi.
Ouais, j'avoue. Hein.
Des fois, c'est pas toujours une super photo.
Non, c'est ça.
Envoyer.
Je note. Hein.
Après ça, moi, ce qui m'a souvent fait rire, c'est les gens qui se mettent en live sans faire exprès.
Ah, oh, mon Dieu Seigneur, oui.
Moi, mais... j'ai un député qui a fait ça.
Arrête.
Aux toilettes.
Arrête.
Aux toilettes.
Mais comme combien de temps?
Pendant quelques minutes, jusqu'à
non.
ce que son attaché de presse
oh,
trouve
Dieu
dans
Seigneur.
Quelle toilette de l'Assemblée nationale
oh,
il
mon
était.
Dieu Seigneur.
On est tous allés pisser avec.
Non.
À l'urinoir.
Non.
Oh, oui. Mon Dieu Seigneur.
Ça avait-tu fait la manchette ou...
Non, parce que, tu sais, les journalistes, à un moment donné, sont comme... disons,
là, limites,
qu'est-ce qui est
là.
D'intérêt public, là?
C'est ça.
Je trouve ça très d'intérêt
quand
public.
Quand même cocasse, là. Non, mais ça aurait pu faire le sac de chips.
Ça aurait pu
t'sais.
Faire le sac de
ça
chips.
Ça aurait pu. Il y a quelqu'un qui dit, un de mes chums a envoyé un dick pic à tous ses contacts, pas juste sa blonde. Cauchemar. Ouais. Ça, honnêtement...
Tous les contacts.
Mais en fait,
cauchemar.
La meilleure manière de te prémunir... Là. C'est de ne pas envoyer des photos de ton pino par les voies de...
Non, mais, non, mais c'est parce que tout le monde a déjà fait ça, envoyer des photos à son ou sa partenaire. Là. C'est humain.
Mais je
c'est...
regarde 50 fois moi aussi. À qui j'envoie
ah,
mon
moi
affaire.
Aussi.
Oui, mais des fois, tu n'as qu'un petit verre. Puis,
ben, c'est ça, tu ne devrais pas faire ça quand tu as pris un verre. Moi, j'ai
ben,
une de mes amies...
Pas, mais... pas tout le monde qui est parfait. Là.
Qui a pris quelque chose en photo de derrière une fenêtre, OK? Dans okay. une chambre d'hôtel. Genre, on était dans un événement, puis on dormait tout à l'hôtel. Et elle n'avait pas vu qu'il y avait son reflet. Elle était flambant nue.
Oh non, non, non.
Elle envoyait ça à des collègues.
Oh non.
On voyait toutes ses scènes en fenêtre, dans le reflet.
Oh
de la
mon
fenêtre.
Dieu, Seigneur.
Tout le monde a reçu
ça. Hey, ça, là, la honte. Mais la honte. Puis ça, le pire, c'est que ça doit arriver plus souvent qu'autrement. En fait, promenez-vous sur Marketplace.
Oui, c'est drôle.
Le nombre
les gens
de
qui
reflets.
Vendent des miroirs.
Oh mon Dieu, le nombre de reflets que tu vois, là, c'est écœurant. Il y a quelqu'un qui nous. Ah, ça, c'est drôle, par exemple. Je texte souvent des messages que je vais vous envoyer par erreur à mon homme de ménage parce que c'est le seul avec qui je texte. Sinon, dans
il doit faire le saut des fois pour se demander « Pourquoi tu me dis ça? »
Je porte des appareils, c'est Marie-Soleil, je porte des appareils auditifs quand j'étais au primaire ou non secondaire. OK, la personne écrit, puis se trompe, puis revient, pareil. Un de mes professeurs avait son système FM allumé pendant qu'il était aux toilettes et moi, j'entendais tout ça. Je riais très fort dans la classe. Quand il est revenu, j'étais trempé. J'imagine que je voulais dire crampé.
L'autocorrect a fait...
Ouais, non, c'est ça.
C'est
avec
drôle,
le FM qui rentrait dans l'appareil auditif. C'est pas pire.
Il a dit, c'est pas pire. Il a dit au moins.
Moi, j'ai reçu un message il y a quelques années sur ma boîte vocale. C'était un gars qui... Il faut que vous sachiez aussi que je prends mes messages sur ma boîte vocale à peu près une fois par 6 mois. Genre,
ouais, ça,
moi,
ouais,
sur ma boîte vocale, ça dit « Ne me laissez pas de message ». Et là, c'est un gars qui dit « Isabelle, faut que tu me pardonnes. Je le sais qu'on est passé à travers certaines choses, mais tu le sais que je t'aime. Reviens à la maison. » Nos enfants vont... Oh. Puis là, une affaire vraiment triste, puis vraiment
oh,
trash.
Mon Dieu!
Mais c'était 1000 ans plus tard que j'ai pris le message. Il laissait pas le numéro de téléphone. Tu sais, comme je me disais, je vais essayer de le rappeler pour lui dire Isabelle, si elle n'est pas revenue, c'est peut-être juste qu'elle n'a pas eu ton message.
Ben, oh mon, tu l'as pas fait, hein?
Non.
Moi, j'aurais peut-être lâché un petit texte.
Mais parlant de message à Isabelle, je sais qu'on va en parler tantôt, mais avez-vous vu Voicemail for Isabelle sur Netflix? Hein?
Hey, mon Dieu, c'est drôle.
C'est comme le hasard est très, très drôle, là, mais.
Je l'ai vu passer. Je l'ai mis dans ma liste. C'est peut-être trop quétaine. Je sais pas si ça me tente. Puis je l'ai pas écouté.
Je me souviens pas de la dernière fois. Je sais même pas si c'est arrivé dans ma vie. Ah, peut-être. Ouais, peut-être la fin de 13 Reasons Why. Mais que j'ai autant braillé.
Mais voyons, toi. Hein? De ce que je comprends, c'est. Ben, dans la prémisse qui t'amène, là, c'est une fille que sa sœur est décédée, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est ça.
Puis elle lui laisse des messages vocaux pour raconter sa journée. Mais elle a comme besoin de ça pour son deuil.
Mais à un moment donné... Véro nous avait rapporté qu'elle avait écouté ce film-là à cause de moi. Toi. Et que tu avais énormément pleuré. Mais c'est un genre de Hallmark, un peu comédie romantique.
Oui, mais elle, tu sais, c'est ça. Elle, c'est pas un mauvais numéro, dans le fond. C'est juste qu'à un moment donné, le numéro de sa sœur est comme désactivé.
Redistribué
à un gars. Puis là, bon, ça va quelque part, là. Puis là, à la fin, là, je braille. Fait que bref, petite parenthèse que je tenais à amener pour, parce qu'on parlait de voicemail à Isabelle et j'ai trouvé le hasard très bon là-dessus.
Donc, c'est un film à voir sur Netflix. D'ailleurs, on va prendre la peine de s'en jaser tantôt. Il y a des gens qui disent que c'est très bon, ton film, Max.
Ben,
et Marco dit, Anto, sur ta boîte vocale, il y a une option où tu as l'étiquette du message avec le numéro.
Mais ça fait plusieurs années, puis honnêtement, là, je pense même pas que c'était un iPhone que j'avais à l'époque.
Moi, je sais que ma boîte vocale est vraiment gênante.
Pourquoi?
Ben, j'ai enregistré ça il y a comme quelques années, puis c'est mon chum récemment qui m'a dit, Audrey, pour vrai, il faut vraiment que tu le changes. Je sais pas si
appelle
je peux
l'appeler. Oui, appelle-toi.
Ça serait le temps, oui.
Ah, c'est bon, ça.
On va l'essayer,
wow.
On va l'essayer.
J'adore tout ça.
C'est vraiment... c'est gênant. OK, donc... 9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.
Mais là, c'est parce que... Là, les attentes sont élevées, là.
Mais non, mais je
c'est
pense que
c'est
distance.
Juste...
Oui.
Oui, ah, ouais. T'as jamais remarqué?
Non. Ben moi, j'appelle jamais personne.
Là, j'imagine que si je raccroche, ça va tomber sur ma boîte vocale.
Peut-être, oui. Sûrement.
Si je refuse.
La personne que vous avez appelée n'est pas disponible.
Monte le son.
Veuillez laisser un message après le signal sonore.
Alors, tu sais que ça me tente plus.
Non.
Ah! Hein?
Mais voyons,
t'en
je l'ai effacé. Peut-être que je l'ai effacé sous conseil de mon amoureux.
Hey,
là, c'est la déception de la semaine.
Mais peux-tu nous le décrire? C'était quoi, genre?
Ben, non, mais j'étais...
Là, t'as-tu raccroché, sinon tu vas avoir un long message de nous?
Non, c'est ça, je suis en train de me faire...
OK.
Tu pourrais écouter ça tantôt. Hey, mais là, c'est... Hey, tu viens...
Hey, mais je pense que j'y crois pas.
Qu'est-ce que tu viens de faire, là?
J'y crois pas parce que j'ai rien changé. C'est un message du genre... Je vais le laisser sonner, voir, j'y crois pas.
Ben non, mais tant que tu disais pas « allô », tu sais, comme les gens qui ont un faux message de « allô ».
Ah,
oh,
puis là, ils font des blagues.
Oh, mon Dieu, non.
Mais,
ça, c'est
non.
Passé date. On peut-tu dire que tu peux plus faire ça dans
non,
la vie?
Non, tu peux plus.
Mais je pense pas que ça met pas la boîte vocale si tu raccroches de même. Là, non, ça n'a pas rapport. Fait qu'on peut essayer, là. Mais,
ça va être le même message.
Je pense que ça va... Five, oh, là, on va entendre ton numéro. Enlève ça, là, Audrey. Là, c'est une vraie catastrophe ce qui se passe.
Mais en gros, ce que je disais, je pense que ça faisait à peu près 68 fois que je reprenais le message. Puis je suis tellement pas bonne là-dedans. Là. Honnêtement, tu sais, c'est on fait de la radio, on devrait être bon pour
ça. En plus, il faut s'écouter. Après?
C'est épouvantable. Bonjour. Tu sonnes même pas comme toi. T'sais?
Quelqu'un vient d'écrire au 88-971-1021. Mon chemin voulait texter sa blonde. Viens me faire l'amour sur le divan. Mais il me l'a envoyé. On rit encore après plusieurs années.
Ça, c'est bon.
Clair que ça reste un running gag.
Ah, oh, mais c'est cocasse.
Viens me faire l'amour sur le divan. Tu reçois ça,
tu
de tes meilleurs chums. Tu fais, hey, je savais qu'on s'aimait, mais peut-être pas comme ça.
Ouais,
là,
c'est... Là, je trouve ça bon. Hey, continue de nous écrire au 88-971-1021. On aime les vos histoires. Au retour de la pause, on parle avec Misha Urswil, qui est une passionnée d'histoire et surtout d'histoire de la ville de Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on a jasé des statues de Québec et entre autres du boulet de canon qui a été retiré dans les dernières années dans le Vieux-Québec, ce qui est une tragédie, mais j'en reviens pas encore. Boulet qui a été ajouté à une table au clan. Mais on a mis une pancarte lettre à l'endroit où il y avait un boulet pour expliquer ce que c'était. Une pancarte vraiment beige et lettre. Et on s'est mis à se dire, ça pourrait être super intéressant de parler des statuts de Québec. Souvent, il y a des affaires qui sont super controversées. Et Micha, ça l'a intéressé, donc nous a préparé une chronique là-dessus. On s'en vient dans les prochaines minutes avec ça. Si vous avez des questions, commentaires, 97102.
Le retour